Je reçois notre invité est au téléphone, Pierre Dhomme. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous consacrer quelques minutes sur Liberté FM. Vous êtes historien spécialiste du passé colonial de la France. À l'occasion de plusieurs dates événementielles sur Bergerac et Creil, à partir du 9 octobre, 9, 10 et 11 octobre, et toujours cette exposition qui rend hommage aux travailleurs indo-chinois. Nous avions déjà eu l'occasion, il y a quelques mois de cela, de dialoguer avec vous, Pierre Dhomme. Pour évoquer justement ce camp de la poudrerie de Bergerac, dit Bao Dai, exposition qui a eu un énorme succès, me semble-t-il.
Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je précise tout de suite, puisque cette exposition donc, sur les travailleurs indochinois en Dordogne, pendant la Seconde Guerre mondiale, a en effet été inauguré une première fois en mai dernier, et c'est là où j'ai eu le plaisir de parler à votre antenne, dans la vallée des Beunes, au Zaïzi, n'est-ce pas, au pôle d'interprétation de la préhistoire. Et là, elle déménage maintenant à Bergerac, à l'espace d'Ordonia, et donc où elle va être visible à partir du samedi 11 avec un vernissage la veille au soir, mais dans une version modifiée, j'allais dire légèrement modifiée, mais c'est pas si léger que ça, puisque, en fait, la moitié des photos que nous avions présentées, donc avec mon partenaire Michel Lequin, la moitié des photos que nous avions présentées au Zaïzi va être changée. À savoir que au Zaïzi, eh ben, nous avions mis un focus très important sur cette opération qui a eu lieu entre 1941 et 1943, où les pouvoirs publics ont mobilisé 700 Vietnamiens pour qu'ils aillent les pieds dans l'eau, nettoyer les deux rivières des Beunes, donc la Petite Beune et la Grande Beune. Et là, il était naturel de mettre ce focus-là lors du passage de l'exposition au Zaïzi. En revanche, maintenant qu'elle arrive à Bergerac, eh ben, nous avons réduit considérablement le choix des photos concernant cette opération de curage des Beunes au Zaïzi, et nous allons exposer des nouvelles photos, une trentaine de nouvelles photos qui concernent vraiment spécifiquement Bergerac. Avec, nous avons eu accès à des fonds photographiques extraordinaires, à la fois le fond Bondier, Robert Bondier, du nom du grand-père donc de Michel Lequin. Robert Bondier a été photographe dans le centre-ville de Bergerac pendant un demi-siècle. Donc il a pris en photo ces Vietnamiens dans les rues de Bergerac et dans le camp de Bergerac. Et nous avons eu accès à des archives photographiques privées de la part de descendants de travailleurs indochinois.
Où était-il situé ce camp précisément à Bergerac ?
Alors, très bonne question, parce que quand j'ai commencé mes recherches, tout le monde parlait du camp de Creil. Et le fait est que à Creil, donc qui est cette municipalité juste à la sortie de Bergerac, n'est-ce pas ? La sortie est de Bergerac. Quand justement on prend ce grand boulevard qui longe la poudrerie vers l'est, c'est la route de l'Alinde, je crois, la départementale, et là, à un moment, ben, on quitte la commune de Bergerac et on entre dans la commune de Creil. Et là, à droite et à gauche, pendant plusieurs décennies, il y a eu des baraquements et où il y a en effet eu des Vietnamiens, et ces baraquements sont restés très, très importants dans la mémoire locale. Et donc, quand j'ai commencé mes recherches, il y a 3 ans, les habitants me parlaient, me disaient, ah oui, les Indochinois, ben, c'est le camp de Creil. Bon. Et donc, j'ai entrepris mes recherches, hein. Je suis allé dans les archives à Périgueux, les archives départementales. Je suis allé aux archives nationales, sur la colonisation qui se trouve à Aix-en-Provence. Et là, en fait, j'ai fait une découverte très intéressante, puisque il y a eu deux camps indochinois. Et là, donc, je réponds maintenant directement à votre question. Il n'y a pas eu un camp indochinois, celui de Creil. Il y en a eu deux, qui correspondent à deux périodes, d'ailleurs, de la présence de ces Vietnamiens. Donc, lorsqu'ils sont arrivés en 1940, pendant 4 ans, et c'est la première période, ils n'ont pas du tout été mis à Creil, ils ont été mis dans deux immenses hangars qui se trouvaient à l'intérieur de la poudrerie elle-même, n'est-ce pas? Et de ces deux grands hangars, il se trouve qu'il en reste un, toujours debout. Et donc, pour les Périgourdins qui m'écoutent et qui connaissent bien la géographie de Bergerac, eh ben, quand justement on quitte le centre-ville de Bergerac et qu'on va vers la poudrerie, c'est-à-dire vers Creil finalement, et qu'on longe la poudrerie, on la longe, elle se trouve à notre droite, et c'est un immense boulevard qui fait peut-être 1 km de long, et au milieu à peu près de ce boulevard, donc sur la droite, se trouve l'entrée principale de la poudrerie, qui s'appelle maintenant Eurenco, n'est-ce pas?
Oui.
Et donc c'est une entrée réglementée, hein, on est sur un site semi-militaire, donc il y a une barrière là. Bon. Et donc si on se met devant cette barrière, c'est-à-dire sur le boulevard devant l'entrée principale, eh bien, les deux anciens bâtiments, il en reste un seul, se trouvaient sur la droite de cette entrée principale. Et aujourd'hui, le seul bâtiment qui reste est connu pour avoir été longtemps le restaurant d'entreprise de la poudrerie, la cantine en fait de la poudrerie. Et ça a aussi été, parce que la cantine a cessé de fonctionner il y a peut-être 20 ans. Et dans ce très grand hangar, dans une partie du hangar, un club de judo s'est installé. Donc on l'appelle le dojo. Et sinon, il y a aussi le comité d'entreprise et les bureaux de la CGT qui ont longtemps été installés là. Maintenant, tout ça est à l'abandon. Je me demande si ça ne va pas être détruit un jour ou l'autre. Sauf que dans les années 90, une découverte extraordinaire a été faite dans ce hangar-là, à l'époque où il continuait à être le restaurant d'entreprise, puisque sous une partie des faux plafonds ont été découvertes des fresques. Hein, on les appelle aujourd'hui les fresques indochinoises. Elles existent toujours. Alors, elles ont été donc peintes par quelques Vietnamiens avec la main très artistique. Elles étaient superbes. Et dans les années 90, il y a eu une campagne photographique qui a été entreprise de ces fresques. Sauf que, à l'époque, le service du patrimoine de la région espérait pouvoir convaincre les personnes propriétaires, en fait, qui est la poudrerie. La poudrerie est à moitié propriétaire de l'État, propriété de l'État. Et donc, les services du patrimoine espéraient convaincre la direction de la poudrerie de préserver ces fresques. Il n'en a rien été. J'y suis encore allé dans ce hangar-là il y a quelques mois. Elles sont vraiment en fin de vie. tout s'écroule, c'est la misère. C'est vraiment, ça fend le cœur. Voilà. Et donc ça, c'était le premier camp qui a fonctionné donc dans deux hangars jumeaux, donc le hangar qui reste et un hangar jumeau qui était juste en face, de février 1940, quand ils sont arrivés, jusqu'à avril 1944, donc pendant 4 ans, les Vietnamiens ont été là, à partir de mars 1944, la poudrerie commençait à être bombardée par l'aviation britannique, et ça devenait très dangereux, la direction des travailleurs indochinois a décidé de les déménager, et elle a donc obtenu de la part de la direction de la poudrerie de pouvoir occuper une trentaine de baraquements qui se trouvaient donc 1,5 km plus loin, à l'entrée de Creil, dans ce qui s'appelait à l'époque le camp de Creil. Et donc là, ça a été la deuxième phase pour les Vietnamiens, puisque ça a duré à nouveau 4 ans. Et donc de 44 à 48, ils ont été au camp de Creil.
Pour quelle raison y a-t-il eu, Pierre Redhomme, cet amalgame finalement entre ces deux camps qui, dans l'imaginaire, n'en font plus qu'un aujourd'hui, en l'occurrence celui de
Alors,
Creil?
oui, alors c'est une bonne question, mais elle est plus difficile à résoudre. Je n'ai qu'une hypothèse, si vous voulez, c'est que, parce que là, finalement, votre question, c'est comment se construit une mémoire locale et comment elle se déforme, finalement. Bon, toutes les mémoires se déforment, hein, mais il y a des mécanismes psychologiques, psychiques, qui sont à l'œuvre dans la déformation des mémoires. En ce qui concerne ces deux camps qui, en effet, comme vous dites, n'en ont fait plus qu'un seul dans la mémoire locale, l'hypothèse que je propose, c'est que, d'une part, le premier camp a disparu, c'est-à-dire que ces hangars, alors en 44 et même après-guerre, ces hangars n'ont pas disparu, mais ils ont cessé d'être des lieux de logement. D'ailleurs, ils n'avaient pas du tout été conçus pour être des logements. C'était des hangars industriels, avec des hauteurs de plafond absolument vertigineuses et sans aucun chauffage. Et d'ailleurs, pendant 4 ans, les 1 500 Vietnamiens qui y étaient enfermés ont crevé de froid, littéralement. Alors que à Creil, c'était des bâtiments, des baraques qui avaient été construites pour loger des ouvriers de la poudrerie. Donc c'était du logement. Voilà, j'étais assez bien foutu. Enfin, c'était très sommaire, mais c'était quand même fait pour loger des hommes. Et surtout, ces baraquements de Creil sont restés avec d'autres populations, d'ailleurs, mais aussi avec des Vietnamiens. Et là, ça explique peut-être, oui, encore mieux le mécanisme de la mémoire locale. C'est que il y a eu une seconde vague de Vietnamiens qui sont arrivés à Creil, dans ces baraquements, et alors là, il y a une confusion totale, puisque vous savez peut-être, et nos auditeurs le savent peut-être, que là, les travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale, c'est une présence vietnamienne en France pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Et c'est une première vague d'immigration, on va dire, vietnamienne, qui a eu lieu entre 1940 et 1950. On va dire, Mais ces gens-là ont massivement été rapatriés en 1948, 1949, 1950. Bon, fin de cette première vague. Sauf que, 5 ans plus tard, en 1955, il y a une deuxième vague de Vietnamiens qui sont arrivés, qui n'a rien à voir avec cette première vague, puisque la première vague, c'était un recrutement forcé d'hommes dans le contexte de la guerre en Europe, alors que la deuxième vague, celle de 1955, il s'agit de ce qu'on appelle les rapatriés d'Indochine, à savoir que la France a perdu la guerre d'Indochine à Dien Bien Phu en 1954 et elle a évacué peu à peu le Vietnam en emportant dans ses avions et dans ses bateaux des familles. Alors là, ce n'est pas juste des hommes, ce sont des familles où souvent, d'ailleurs, c'était la femme qui était vietnamienne, mariée à un soldat français, et ils avaient des enfants métis, on va dire. Et donc, ces familles de rapatriés d'Indochine, eh ben, le mari soldat français n'allait pas rester au Vietnam. Et donc, ils ont été exilés vers la France, par l'armée française qui quittait le Vietnam. Et là, ils ont été installés dans des camps. Il y a eu deux camps principaux pour accueillir ces familles de rapatriés d'Indochine. Un camp à Noyan dans l'Allier et un deuxième camp beaucoup plus proche de la Dordogne, puisque c'est le camp de Sainte-Livrade, dans le Lot-et-Garonne. Et là, nos auditeurs ont probablement entendu parler de ce petit Vietnam du Lot-et-Garonne. Or, et j'en finis avec cette histoire, le camp de Sainte-Livrade n'était pas assez grand pour accueillir toutes ces familles. Et donc, une vingtaine de familles, peut-être, de rapatriés d'Indochine, ont été dirigées vers le camp de Creys. Et voilà. Dans la mémoire locale, confusion totale. Alors la confusion totale, tout ça, ce sont des Indochinois, et ce sont les Indochinois de Creys qui sont venus pendant la guerre.
Il y a eu cet amalgame, quoi.
Absolument, absolument.
Est-ce que ces travailleurs vietnamiens se sont intégrés dans Bergerac, puisque on évoque avec vous, Pierre Dom, justement, cette exposition et ces conférences que vous donnerez à partir du 9 octobre avec Michel Lequin?
Il faut voir ce qu'on entend par intégrer, mais disons que dans la population bergeracoise d'origine vietnamienne, et les Bergeracois connaissent en effet des familles d'origine vietnamienne, et bien là, il y a en effet toujours cette même confusion. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui viennent de cette deuxième vague de rapatriés d'Indochine, mais il y a en effet, là on revient à mon sujet et on revient à l'exposition donc, qui va ouvrir la semaine prochaine à Bergerac, donc qui va ouvrir le samedi 11 à l'espace d'Ordonia de Bergerac avec un vernissage la veille. Donc c'est ces Vietnamiens qui sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale dans la poudrerie. La plupart d'entre eux ont fini par retourner dans leur pays. Ils n'avaient aucune envie de rester en France et ils ont subi 10 années d'exil forcé. Et quand enfin le gouvernement français a organisé des bateaux pour les ramener chez eux, ils se sont précipités. Cependant, en ce qui concerne juste ceux de Bergerac, on va dire quelques dizaines d'entre eux, pendant ces 10 années d'exil forcé, avaient rencontré une bergeracoise, et c'est pas qu'ils voulaient forcément fonder une famille et rester en France, mais et d'ailleurs un certain nombre ont quitté leur amoureuse, on va dire, bergeracoise, pour retourner au Vietnam. Par contre, pour certains de ces couples, la femme est tombée enceinte. Alors, ces couples n'étaient pas mariés, dans la plupart des cas, et par contre, là, on est dans la France des années 40, et bien, ça, c'était le drame de tous les jeunes couples. La femme tombait enceinte, eh ben il fallait prendre des décisions très importantes, et donc la plupart de ces Vietnamiens ont décidé de rester en France et d'épouser donc leur compagne, et d'ailleurs de continuer ensuite à faire des enfants de façon maritale, comme on disait à l'époque. Et donc, en effet, là, il y a plusieurs dizaines de familles de travailleurs indochinois qui ont été fondées, avec la nuance que tous ne sont pas forcément restés à Bergerac ou restés en Dordogne, puisque ensuite, donc, on est après la guerre, ces familles sont créées, donc, et l'homme, éventuellement la femme, recherche du travail. Or, s'ils ne trouvaient pas du travail à Bergerac, eh ben, ils étaient aspirés, en quelque sorte, comme l'ensemble du monde ouvrier français, vers les grandes régions industrielles, et notamment les usines d'automobiles. Et donc, il y en a beaucoup qui sont allés du côté de Sochaux ou de Boulogne-Billancourt.
Merci beaucoup pour ces explications. On va évidemment conseiller à celles et ceux qui veulent en savoir plus d'aller vous écouter avec Michel Lecat ce 9 octobre à 18h, puisqu'il y aura cette conférence qui sera donnée à l'espace Dordogna à Bergerac, et puis le lendemain, le dévoilement de la plaque des 62 Vietnamiens morts à Bergerac. Ce sera au cimetière Beauferrier de Bergerac. Là aussi, un moment sûrement rempli d'émotions, parce que ce sont des hommes qui n'ont jamais revu leur pays, leur famille, et donc leurs racines, et ils sont morts à Bergerac. Hein.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, si j'ai encore une minute, je vous ai dit combien dans ces deux hangars de la poudrerie où ils ont été parqués, ces hommes crevaient de froid. Et en fait, il y a eu une surmortalité chez cette population vietnamienne dans ces années-là. Et c'est cela qu'on va rappeler au cimetière de Beauferrier le vendredi 10 à 17h. La mairie de Bergerac a décidé d'honorer la mémoire de ces hommes en faisant graver leur nom, leurs 62 noms, donc, dans une plaque de marbre qui va être dévoilée. Et ensuite, donc, on pourra poursuivre avec le vernissage de l'exposition à l'espace Dordogna. Et je finis le programme, ou bien vous voulez le finir vous-même.
Allez-y, Pierre.
Puisque le lendemain, samedi matin, à 11h, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence du jeudi soir, du jeudi 9, samedi 11 à 11h, Michel Lecat et moi-même, nous donnons une deuxième conférence, cette fois-ci à la mairie de Creil.
Très bien. Merci pour toutes ces explications. Il y aurait sûrement encore beaucoup de choses à apprendre de votre part, Pierre Dom. Et justement, il y a ces conférences que vous allez donner le 9 octobre et le 11 octobre à Bergerac et Creys. Merci beaucoup une nouvelle fois pour ces quelques minutes.
Merci à vous. Merci pour votre invitation.